perkeleen tontot!
Le métal fait son show sur Bac FM. Bienvenue dans l'émission Check Milo. Nous sommes le 29 octobre. Les créatures des ténèbres s'éveillent doucement à l'approche d'Halloween et pour accompagner leur retour d'un soir dans le monde des vivants, eh bien voici une bande sonore taillée pour l'occasion, composée d'une sélection de nouveautés qui sont toutes parues ce jour, une bande-son qui va convoquer des zombies, des démons, des esprits et autres chimères. Du heavy sludge de haute volée des Américains de Mastodon au heavy doom 70s des Allemands de Lucifer, en passant par le rock post-grunge de Jerry Cantrell, le heavy metal sucré de Beast in Black, le shredding heavy de John Five, le pirate metal de Running Wild, le death progressif d'Archspire et le deathcore de Whitechapel. C'est une programmation assez puissante pour réveiller les morts que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette émission, qui, comme le veut la tradition, se refermera sur un air de reprise avec la rubrique Sortez Cover, qui elle-même va prendre des couleurs halloweenesques avec une revisite Metal Indus signée White Zombie d'un tube disco des années 70, dans lequel, eh bien justement, il sera question de croque-mitaine. Voilà ce qui vous attend durant la prochaine heure, donc vous êtes ainsi prévenus, et je peux donc déclarer ouvertes les hostilités de ce Check Milode, avec pour commencer les pachis de Mastodon qui sortent aujourd'hui leur 8e production studio, qui est un ambitieux double album qui s'intitule Hushed and Grim et qui succède au magistral Emperor of the Sand qui était paru en 2017. Avec Mastodon, Mastodon, quelques mots sur eux, c'est une formation qui est originaire d'Atlanta en Géorgie, qui existe depuis 2000 et dont une des particularités c'est d'être incroyablement stable, puisque ses 4 membres fondateurs, le chanteur bassiste Troy Sanders, les guitaristes Brent Haynes et Bill Kelly-Hur et le batteur-chanteur Brian Delor sont encore présents aujourd'hui. Avec son métal à la croisée entre le heavy, le sludge, le metal prog, le stoner rock et le metal alterno, Mastodon a su développer un univers musical plutôt singulier qui lui a permis de s'imposer assez rapidement dans le paysage metal international, tout en jouant un rôle clé dans le renouveau de la scène metal américaine. On découvrira d'ailleurs l'immense potentiel du combo dès la sortie de son premier album, Remission, en 2002, qui sera salué par l'ensemble des médias. Mais c'est avec Leviathan, en 2004, que Mastodon explose à la face du monde. L'impact médiatique de ce deuxième album, il est tel que le combo va quand même signer avec la Major Warner. Alors, ensuite, il y aura Blonde Mountain. Là, avec cet album-là, en 2006, les Américains possèdent déjà un goût prononcé pour l'expérimentation et prennent donc le risque de proposer un album aux sonorités plus variées, plus aériennes. Le pari, c'est une réussite avec un succès encore plus grand. 3 ans plus tard, en 2009, il y aura ensuite l'album Crack the Sky qui se veut cette fois-ci plus progressif, plus mélodique. Et à ce moment-là, on n'est plus très loin de la consécration qui va arriver avec The Hunter en 2011, un 5e album littéralement encensé par la presse et les fans, tout comme le seront ensuite Once More Round the Sun en 2014 et Emperor of the Sand en 2017. Mais il est temps aujourd'hui d'ouvrir un nouveau chapitre pour Mastodon avec Hushed and Grim, son tout premier double album, donc paru ce 29 octobre, dont l'enregistrement s'est déroulé dans sa ville natale d'Atlanta, sous la houlette du producteur David Bottrill, connu notamment pour son travail avec Tool, Rush ou encore Muse. fortement imprégné du deuil vécu par le groupe suite à la disparition en 2018 de son ami et manager Nick John. Hushed and Green, c'est un album dense et riche en intensité émotionnelle qui, à travers 15 titres, explore les thématiques de la perte, de la nostalgie. D'ailleurs, cette mélancolie, ce désespoir sont clairement annoncés dès l'artwork du disque, qui est entièrement gris et noir, qui est l'œuvre de Paul Romano, un fidèle partenaire artistique de Mastodon. Mastodon qui, en transformant sa douleur en force créatrice, a su se transcender, et je pense qu'on peut d'ores et déjà affirmer que Hushed and Grim est à ce jour son œuvre la plus ambitieuse. Alors le combo nous fait voyager dans des contrées sonores où se rencontrent le métal alternatif, le rock progressif ou encore le rock psychédélique, le stoner et le punk, le tout relié par la virtuosité exceptionnelle du quatuor qui offre à l'ensemble autant de relief que d'harmonie. Et si Mastodon s'offre quelques pérégrinations sinueuses, et bien les 15 titres du disque n'en sont pas moins évidentes, directes, puissantes, sans jamais tomber dans le remplissage, ce qui est un petit peu le risque quand on fait un double album. Hushed and Grim, c'est un disque qui est aussi maîtrisé que réussi et qui fera sans doute date dans la discographie de Mastodon. En voici d'ailleurs un extrait avec le titre Tear Drinker. Voici tout de suite Mastodon sur Back FM. sortir Drinker de Mastodon sur Back FM 106.1 dans l'émission Check Me Load. Il s'agit d'un extrait de Hushed and Grim, l'excellent 8e album studio de et premier double album du combo d'Atlanta paru ce jour et dédié à la mémoire de leur manager Nick Jones, leur ami qui a disparu il y a 3 ans. Hushed and Grim qui sera sans aucun doute un des meilleurs disques de cette année 2021. On quitte maintenant le sud de la côte est des États-Unis pour le nord de sa côte ouest, puisqu'on va partir en direction de Seattle avec la sortie ce 29 octobre également du nouvel album de Jerry Cantrell, une icône de la scène grunge des années 90 qui n'avait plus rien sorti en matière d'album solo depuis Degradation Trip en 2002. Alors bien évidemment, Jerry Cantrell, c'est avant tout en tant que guitariste et membre fondateur du groupe Alice in Chains, qu'il a fondé en 87 avec le chanteur Layne Staley, qu'on le connaît. Très vite, Alice in Chains va devenir aux côtés de Nirvana, Soundgarden et Pearl Jam une formation emblématique de la scène grunge de Seattle et va connaître un succès immense avec notamment les albums Dirt en 92 et Alice in Chains en 95 qui font aujourd'hui office de référence en la matière, et puis sans oublier le EP Jar of Lies paru en 94 qui est quand même un des EP les plus vendus de l'histoire du rock. Malheureusement, Layne Staley va décéder d'une overdose en 2002. Alice in Chains met donc sa carrière entre parenthèses jusqu'à l'arrivée du chanteur William Duval en 2006 qui va permettre au groupe de refaire surface avec l'album Black Gives Way to Blue en 2012, et puis il a ensuite été suivi par The Devil Put Dinosaur's Ears en 2014 et par le très réussi Rainer Fog en 2018. Concernant sa carrière solo, Jerry Cantrell l'a débuté avant le hiatus d'Alice in Chains, puisque son premier album Boggy des Potes était paru en 98. C'est d'ailleurs à cause de l'inactivité du groupe due aux soucis d'addiction de Layne Staley que Jerry Cantrell va se lancer à contre-cœur dans ce premier projet solo, qui sera suivi en 2002 par Degradation Trip, qui paraît quelques semaines seulement après le décès de Staley. Alors Degradation Trip, c'est un album doté d'un son lourd métallique, d'atmosphère sombre qui rappelle Alice in Chains. Il a été enregistré avec la collaboration du bassiste Robert Trujillo, futur bassiste de Metallica, donc, et du batteur Mike Bordin de Faith No More. C'est un album qui va connaître un accueil très enthousiaste, mais ensuite, les affaires vont reprendre pour Alice in Chains, et si Jerry Cantrell prétendait travailler sur un nouvel album solo depuis longtemps, jusqu'à il y a peu de temps, personne n'en avait vu la couleur, hein, faut être bien honnête. Mais ça y est, il est là, il s'intitule Brighton, et il se compose de 8 titres classieux que notre chanteur-guitariste a enregistré avec un casting de folie. Plutôt qu'un line-up défini, Jerry Cantrell a en effet préféré s'entourer de prestigieux invités comme le bassiste Guns N' Roses Dove McKagan, comme les ex de The Dillinger Escape Plan Greg Puciato et Jill Sharon, ou encore avec le batteur A.B. Laboriel Jr. qui est connu pour quand même tourner avec Paul McCartney. Et si l'empreinte quand même les chemins tracés par Alice in Chains, et bien Brighton permet également à Jerry Cantrell de nous révéler des facettes plus inattendues avec des sonorités Americana, des chants féminins de toute beauté ou encore un piano qui donne du cachet à ce nouvel album qui a l'image de son titre, hein, brillant, et qui avec son mélange d'influences grunge, rock, blues, folk et même un peu country devrait conquérir de nombreux amateurs de rock. On écoute Jerry Cantrell avec le titre Alone. Plays the role of enemy.
touch my face and speak to me like a child.
Écoutez l'émission Check Meload dédiée à l'actu metal sur Back FM. À l'instant, c'était Jerry Cantrell avec le titre Alone. Le guitariste d'Alice in Chains sort aujourd'hui un nouvel album solo intitulé Brighton, qui est brillant et réussi et sur lequel vous pouvez retrouver ce morceau qui vient d'être diffusé. Alors, outre les monstres Halloween, c'est aussi les confiseries. Ça tombe bien, voici une formation qui réunit les deux. Il s'agit de Beast in Black, un groupe finlandais créé par l'ex-Battle Beast Anton Kebanen, qui sort ce jour un troisième album intitulé Dark Connection, qui se déguste avec le même plaisir coupable que ses deux prédécesseurs. Alors, pour que vous en sachiez un petit peu plus à propos de Beast in Black, tout commence en 2015 à Helsinki. Anton Kebanen, qui est le guitariste et qui est un des membres fondateurs du groupe de heavy metal Battle Beast, va décider de prendre le large suite à des divergences musicales avec les autres membres du groupe. Il crée alors sa propre formation, Beast in Black, qui lui permet enfin d'imposer sa vision des choses, à savoir un heavy metal sauce 80s avec des claviers qui passent pas inaperçus, ainsi que des refrains et des riffs plutôt imparables qui frôlent de très près les frontières de la pop, un mélange des plus enthousiasmants si vous êtes nostalgique de cette bonne vieille décennie 80. Par contre, si vous ne l'êtes pas, attention au choc anaphylactique. Et ce heavy hard rock sucré et acidulé comme un sachet de Skittles, on l'avait découvert avec l'album Berserker en 2017 et ensuite avec From Hell With Love en 2019, deux friandises qui mélangeaient de façon et décomplexé heavy metal, mélodie pop et influence hard FM, un petit peu comme si Judas Priest avait fusionné avec ABBA et Europe époque Final Countdown. Moi personnellement j'avais adoré, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. Et donc eh bien revoilà nos confiseurs du heavy metal avec Dark Connection, un troisième album sur lequel on retrouve sa délicieuse recette composée de heavy speed metal, de hard FM 80s et de pop flavor hautement énergique avec comme toujours des refrains enlevés imparables, des riffs acérés et accrocheurs. Et puis ces synthés absolument ravageurs auxquels même les plus durs vont pas arriver à résister. Et le tout est encore une fois emmené par l'impressionnant chanteur Yanis Papadopoulos, qui manie les octaves comme personne. On se délecte de ce troisième album qui est Dark Connection avec toujours cette espèce de plaisir coupable. On se dit « Oh là là, c'est trop bien, mais en fait j'ai honte d'aimer ça ». C'est une gourmandise cet album. En voici d'ailleurs un extrait avec le titre « One Night in Tokyo », et là vous allez comprendre exactement pourquoi je parle de plaisir coupable. Bienvenue donc dans l'univers futuriste de Beast in Black. Enjoy! aussi, hein, vous avez eu honte d'aimer ça, hein, mais non, faut pas, hein, on n'y peut rien, c'est imparable, c'est One Night in Tokyo du groupe de heavy finlandais Beast in Black sur Back FM, le combo fondé par l'ex Battle Beast Anton Kabanen et mené par l'impressionnant Yanis Papadopoulos, groupe qui sort aujourd'hui donc ce troisième album intitulé Dark Connection avec ses gros synthés, là on aurait dit presque le générique d'un manga ce morceau là, et voilà, impossible vraiment d'y résister. Vous écoutez l'émission Check Me Load et voici maintenant du son pour les amateurs de belles guitares. Donc lui, son nom c'est Five, John Five, et c'est accompagné de son groupe The Creature qu'il sort ce 29 octobre un nouvel album qui s'appelle Sinner. Alors John Five, de son vrai nom John Williams Lowery, possède un CV des plus impressionnants puisqu'il a contribué en tant que musicien de session et de live à de très nombreux albums et à de très nombreuses tournées, mais dans les grandes lignes c'est en tant que guitariste de Marilyn Manson qu'il s'est fait connaître du grand public. Il va en effet collaborer avec le Révérend Manson entre 98 et 2004 et participe par conséquent aux albums Hollywood in the Shadow of the Valley of Death paru en 2000 et The Golden Age of Grotesque paru en 2003. Et puis depuis 2005, il est le guitariste de Rob Zombie dont on reparlera tout à l'heure dans la rubrique Sortez Cover. Enfin, John Five, qui est un artiste extrêmement prolifique, mène également depuis 2004 une carrière solo avec désormais pas moins de 10 albums studio au compteur qui ont pour particularité d'être des disques instrumentaux sur lesquels apparaissent toujours de nombreux invités et dont les titres font souvent référence à des serial killers célèbres, des engins de torture ou à des films. Et le petit dernier de cette discographie solo, eh bien c'est Sinner qui déboule aujourd'hui dans les bacs, qui n'est d'ailleurs pas solo à 100% puisque tout comme son prédécesseur Season of the Witch paru en 2017, il a été enregistré avec The Creature qui est en fait un duo composé du bassiste Ian Ross et du batteur Logan Miles Nix. Sans oublier d'ailleurs ses trois invités puisque on trouve sur cet album une participation de la chanteuse de Butcher Babies Carla Harvey et puis surtout la participation de Dave Mustaine de Megadeth et de Peter Criss, le batteur original de Kiss, qui lui est venu cogner sur les fûts du titre qui conclut le disque. Il faut rappeler que Kiss, c'est un groupe dont John Five est un fervent fan depuis bien longtemps, et d'ailleurs ça se ressent pas mal, je trouve, dans le style de la pochette de Sinner. Alors pour ce qui est du contenu de l'album, John Five nous balance 10 titres instrumentaux dans lesquels se cachent quand même quelques petits éléments vocaux, d'où la présence de Dave Mustaine, et qui sont surtout l'occasion pour notre guitariste eh bien, de nous montrer ses extraordinaires talents qui mêlent une certaine technicité, pas mal de feeling, une belle créativité qui font de Sinner un album dynamique et groovy sur lequel on ressent bah, tout le plaisir qu'a pris John Five à le composer et à l'enregistrer. En voici un extrait tout de suite d'ailleurs, pourquoi en parler plus, autant découvrir ça avec le titre Que Pasa, c'est le featuring avec Dave Mustaine. Voici tout de suite John Five and the Creature sur Back FM.
Yeah.
Ça, c'est le titre de cet extrait de l'album de John 5 and the Creature que vous venez d'écouter sur Back FM dans l'émission Check Me Load. Morceau qui, je le rappelle, est interprété en featuring avec Dave Mustaine de Megadeth. Le nouvel opus de John 5 est disponible depuis aujourd'hui. Allez, à la bordaille, Moussaillon, on quitte les États-Unis et on met les voiles en direction du vieux continent pour y retrouver les pirates allemands de Running Wild, qui eux aussi sortent ce 29 octobre un nouvel album intitulé Blood on Blood. Alors Running Wild, c'est un peu les papas de ce qu'on appelle le pirate metal. L'histoire du groupe, elle a débuté il y a bien longtemps, en 76, c'était à Hambourg, et c'était autour du chanteur-guitariste Rolf Kasparek qui mène encore la barre du navire à ce jour. Mais à l'époque, si sa musique est déjà bien ancrée dans le heavy metal, son univers tourne plutôt autour de l'ésotérisme et du satanisme, comme en témoignent ses deux premiers albums, Gates to Purgatory, paru en 84, et Branded at Exile, paru en 85. Les choses vont changer avec l'album suivant, qui est l'incontournable Under Jolly Roger, paru en 87, puisqu'il va être synonyme de tournant décisif pour le groupe, qui laisse définitivement tomber son univers occulte et qui revêt son costume de flibustier. Et le résultat, c'est un heavy metal de plus en plus orienté power metal, qui sent le rhum, les embruns et la poudre à canon. Avec le trio d'albums constitué de Under Jolly Roger qu'on vient d'évoquer, de Port Royal paru en 88 et de Death or Glory paru en 89, Running Wild va sortir ses trois disques emblématiques, puisque sa carrière sera ensuite marquée par la sortie de productions plus ou moins réussies et par une séparation aussi qui va durer 2 ans entre 2009 et 2011. D'ailleurs, si l'album de la reformation Shadowmaker paru en 2012 est plutôt raté, son successeur Resilient en 2013 offrait quand même une belle lueur d'espoir aux fans de voir à nouveau briller ardemment la flamme de leur groupe favori. Et bah c'est exactement ce qui s'est produit d'ailleurs avec la sortie de Rapid for Play en 2016, sur lequel on retrouvait presque le Running Wild de la grande époque, celle de la fin des années 80. Et ce regain de vitalité, il est de nouveau bien présent sur Blood and Blood, paru aujourd'hui. On y retrouve l'ADN du combo à travers 10 compos de pur heavy metal authentique et organique. Alors, loin de vouloir surprendre ses fans, l'intention de Running Wild, c'était vraiment d'offrir ce qui se fait de mieux en matière de heavy metal, c'est-à-dire un heavy qui soit sincère, efficace, taillé pour séduire les amateurs du genre. Alors si vous êtes fan de groupes comme Accept, Gravedigger, Saxon ou Judas Priest, Blood and Blood pourrait bien trouver une petite place au sein de votre discothèque. On écoute tout de suite un extrait de cet album avec le morceau Diamond and Pearls. C'est tout de suite le pirate metal de Running Wild sur Bike FM. We'll be right back. mardi, le métal fait son show sur Bac FM. Vous écoutez l'émission Check Me Load. Et si vous venez de nous rejoindre à l'instant, c'était les darons du pirate métal. J'ai nommé Running Wild avec le morceau Diamonds and Pearls que vous pouvez retrouver sur l'album Blood on Blood paru aujourd'hui. Voici maintenant une nouveauté Death avec le retour dans les bacs des Canadiens Darkspire qui avait pas mal marqué les esprits avec leur album précédent Relentless Mutation paru il y a 4 ans. Donc Darkspire qui devrait de nouveau frapper fort avec Bleed the Future, leur quatrième album, tout frais, paru ce 29 octobre. Originaire de Vancouver, Darkspire a officiellement vu le jour en 2009. Il est mené depuis sa création par le chanteur Holly Peters et il distille un death metal à la fois technique et progressif qu'on va découvrir sur son premier album All Souls Align, paru en 2011. Alors cette première production permet au groupe de se faire remarquer par le label français Season of Mist, sur lequel sont donc sortis les albums suivants The Lucid Collective en 2014, Relentless Mutation en 2017 et Bleed the Future, leur petit dernier. Un quatrième opus qui pourrait bien lui aussi s'imposer comme un autre chef-d'œuvre impitoyable des Canadiens qui emmène le death metal technique à des niveaux les plus extrêmes et des plus complexes. Entre vitesse supersonique et compétences techniques vertigineuses qui atteignent des sommets et défient les lois de la physique, Darkspire repousse encore ses limites et s'installe définitivement parmi les maîtres du genre en matière de métal technique et extrême. Bleed the Future, c'est une production extrêmement inspirée et aboutie dont chacun des 8 titres est une véritable déflagration sonore. En voici la preuve en musique avec le morceau Drone Corps Aviator, tout de suite sur Bac FM. I'm gonna go get some more. Corpse Aviator des nouveaux maîtres du death technique canadien Archspire qui sortent aujourd'hui leur nouvelle bombe sonore intitulée Bleed the Future. Vous écoutez l'émission Check Melot sur Back FM et on va rester dans des contrées death mais dans un registre deathcore maintenant avec le combo Whitechapel qui sort lui aussi ce 29 octobre un nouvel album intitulé Keen. Alors Whitechapel c'est une formation originaire de Knoxville dans le Tennessee qui a été fondée en 2006 et dont le nom fait bien évidemment référence au célèbre quartier londonien où sévissait Jack l'Éventreur. Mené depuis ses débuts par le chanteur Phil Bosman, Whitechapel signe un an après sa formation avec le label Candlelight Records et sort dans la foulée un premier album qui s'appelle The Somatic Defilement. Les choses vont alors aller très vite pour le combo qui signe en 2008 avec Metal Bed Records sur lequel sort la même année This Is Exile qui va recevoir un accueil plutôt enthousiaste aux États-Unis. Alors désormais la discographie de Whitechapel elle se compose de 8 albums studio et si vous avez envie de découvrir un petit peu plus son univers, j'ai envie de vous conseiller Whitechapel paru en 2012, Mark of the Blade paru en 2016 et puis surtout The Valley paru en 2019 qui avait fait forte impression et qui est sans conteste une des pièces maîtresses parmi les productions du groupe. Du coup, il était tellement bien The Valley que on peut se demander si en ayant placé la barre si haute, notre combo arrive réellement à se surpasser de nouveau avec Keen qui est paru aujourd'hui. La réponse, elle est claire, c'est non. Ils n'ont pas surpassé The Valley, mais ils sont quand même arrivés à faire presque aussi bien puisque Keen, c'est un album d'excellente facture auquel on peut juste reprocher une petite chose, c'est de manquer un petit peu d'ambition puisqu'il s'inscrit clairement comme étant la suite de The Valley et il a même failli s'appeler The Valley 2, c'est pour vous dire. Donc, on reprend exactement la même formule que sur l'album précédent et le groupe propose rien de véritablement nouveau. C'est vraiment le seul bémol puisque au final Keen propose quand même 11 compos extrêmement bien écrites, bien exécutées, bien arrangées. Notons à ce sujet que c'est encore une fois sous la houlette du producteur Mark Lewis que ce nouvel opus a été enregistré. On écoute Whitechapel avec le morceau Bloodsucked Symphony, extrait donc de l'album Keen.
Murder my life!
Vous écoutez l'émission Check Me Load sur BackFM avec à l'instant le titre Bloodsucked Symphony du combo de deathcore américain Whitechapel qui sort aujourd'hui l'album Kill, sa 8e production studio. Toujours parmi les sorties de ce 29 octobre, elles sont nombreuses aujourd'hui. Voici maintenant de quoi combler les amateurs de Heavy Doom avec une formation berlinoise qui s'appelle Lucifer et qui sort aujourd'hui un 4e album très sobrement intitulé Lucifer 4. Et figurez-vous que pour une fois, c'est une femme qui est à l'initiative du groupe Lucifer. Cette femme, c'est la chanteuse Johanna Sadonis qu'on avait découvert au sein de The House, un duo de Heavy Doom qui a existé que très peu de temps entre 2012 et 2014. C'est justement quand The House a splitté que Johanna Sadonis a décidé de créer ce projet musical qui est Lucifer, dont le line-up a déjà énormément évolué en quelques années d'existence, puisque à ce jour, il compte pas du tout les mêmes musiciens qu'au début, des musiciens qui aujourd'hui sont pour la majorité suédois. Johanna Sadonis est en effet accompagnée du multi-instrumentiste Nick Anderson, qui est son mari et qui est surtout connu pour avoir joué dans des formations comme Entombed ou The Helicopters. Et puis elle est également accompagnée des guitaristes Martin Nordin et Linus Björklund, ainsi que du bassiste Harald Godblad. Concernant son univers musical, Lucifer distille un heavy doom aux accents très 70s, avec une atmosphère extrêmement occulte. Ses principales influences, elles ont pour nom bien évidemment Black Sabbath, on s'en serait douté, mais il y a aussi Deep Purple, Blue Oyster Cult, et puis des groupes avec des filles à la barre comme Heart ou Fleetwood Mac. En 2015, le groupe va sortir son très remarqué premier album qui s'intitule tout simplement Lucifer, qui a été enregistré en compagnie de musiciens et en officier dans des formations prestigieuses telles que Cathedral ou Angel Witch. Ce premier opus sera accueilli avec beaucoup d'enthousiasme de la part des médias, mais aussi du public qui en redemande, et leur vœu sera exaucé avec la sortie de Lucifer 2 en 2018, enregistré avec un nouveau line-up, et avec ensuite Lucifer 3 paru au printemps 2020, deux albums qui ont été acclamés de nouveau par le public et par les médias. C'est donc avec le plus grand bonheur qu'on accueille aujourd'hui son successeur, donc Lucifer 4. Ils n'ont pas trop d'inspiration pour les titres. Et donc nos deux forces créatrices que sont Johanna Sadonis et Nick Anderson nous livrent ici un 4e méfait qui est plus réfléchi, plus polyvalent, qui combine de façon paradoxale une incroyable lourdeur et une fabuleuse beauté presque aérienne. Lucifer 4, c'est un véritable manifeste de heavy rock vintage qui fait revivre de manière la plus élégante qui soit l'âge d'or des années 70. Alors le groupe nous entraîne dans un périple délicieusement funeste qui dans sa démarche pourrait tout à fait s'imposer comme étant le pendant féminin de Ghost, alors qu'il s'agisse de sa musique qui rappelle les premières productions des Suédois ou même de son univers. Lucifer 4, je pense que c'est la bande son parfaite pour cette fête d'Halloween 2021. En voici un extrait avec le morceau Bring Me His Aid et vous allez voir, c'est assez surprenant. We'll be right back. Lucifer sur Back FM, un titre heavy doom qui n'oublie pas d'être un peu popisant. Hein. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté ABBA dans ce titre extrait de Lucifer 4, le nouvel album de la formation menée par Johanna Sadonis et Nick Anderson. Et voilà, moi, ça me rappelle beaucoup les débuts de Ghost. Je sais pas vous, mais enfin bon, voilà, ça c'est mon avis personnel. Vous écoutez l'émission Check Me Load et puis on va s'arrêter là hein, pour la sélection de nouveautés de ce jour, puisque il est l'heure de se dire au revoir sur un air de reprise avec l'étonnante revisite Metal Indus, signé White Zombie, d'une chanson disco de Casey and the Sunshine Band. Alors le nom de ce titre, c'est I'm Your Boogeyman, en référence bien sûr à Halloween qui va avoir lieu ce week-end. Et donc bah, ce morceau sera parfait pour vous faire une petite playlist pour l'occasion. Il y a tout plein de morceaux hein, dans le registre rock et metal. Vous pouvez vous faire des putains de playlists, moi je vous le dis. En tout cas, la version de White Zombie qu'on va écouter dans quelques instants de I'm Your Boogeyman, elle est extraite de la bande originale du film The Crow, la cité des anges, qui est la suite de The Crow, qui est sortie au cinéma en 96, et qui réunit donc sur le même disque Iggy Pop, Filter, Deftones, Korn ou encore Hole, donc une très belle bande originale, assez difficile à trouver à l'heure actuelle. Mais le morceau là qu'on va écouter, il est aussi disponible sur un des best-of de Rob Zombie, donc voilà, vous pourrez quand même le retrouver si vous avez envie de vous le procurer. Et puis je rappelle au passage quand même que White Zombie, c'est un groupe américain originaire de New York qui a sévi au sein de la scène Metal Indus, dont il était un des fleurons, entre 85 et 98. Il était mené bien sûr par le chanteur réalisateur Rob Zombie et par la bassiste Sean Iselt, et le groupe a sorti en tout 4 albums, dont 2 sont cultes. Il y a tout d'abord la Sexorcisto, Devil Music Volume 1 paru en 92, et puis Astro Creep 2000 paru en 95. Voilà, donc on peut résumer en disant que White Zombie a connu ses plus gros succès dans les années 90, et parmi ses titres les plus emblématiques, on peut citer Thunder Kiss 65, Black Sunshine, Supercharger Heaven, et puis bien évidemment More Human Than Human, que tout le monde connaît. Pour ce qui est de leur reprise de I'm Your Boogeyman, alors la version originale de la chanson, je l'ai déjà mentionné, c'est l'œuvre d'un groupe de disco funk américain qui s'appelle Casey and the Sunshine Band, groupe qui a signé quelques tubes dans les années 70. Alors même si vous aimez pas le disco, si je vous dis Get Down Tonight, That's the Way I Like It ou Check Your Booty, ça vous dit forcément quelque chose, puisque ces titres ont été entendus relativement souvent au cinéma, à la télé. Concernant la chanson I'm Your Boogeyman, elle a connu un succès un petit peu moins important, même si elle s'est quand même classée à la tête des charts américains. Elle est issue d'un album qui s'appelle Part 3, qui était paru à l'automne 76, et puis la chanson I'm Your Boogeyman, elle est ensuite parue en 45 tours le 24 janvier 77. On l'a depuis entendu dans pas mal de séries, alors je peux vous en citer quelques-unes. On a pu l'entendre dans Ally McBeal, dans Scandal, dans Watchmen et même dans Malcolm. Voici donc I'm Your Boogeyman de Casey and the Sunshine Band, revu et corrigé à la sauce Metal Indus par White Zombie. Une version disponible, je le rappelle, sur la bande originale du film The Crow, la cité des anges, sorti en 96, et sur le best-of de Rob Zombie. Quant à nous, on se donne rendez-vous, si tout va bien, dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, nous serons en vacances, et d'ici là, j'aurai fait le plein de nouveautés. Je vous souhaite un excellent week-end sur Back FM, de bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en avoir, et puis bah, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Check Me Load. Mais en attendant, stay metal, stay rock and roll, salut à tous.